Des robots congolais ce soir, nomination des nouveaux mandataires des entreprises publiques. Quels sont les critères qui ont conduit à cette nomination? Quel avenir pour les entreprises publiques en République démocratique du Congo? C'est le sujet de cette émission. La plupart des auditeurs qui nous ont écrit ne semblent pas apprécier cette mise en place. C'est le cas de Kasuku de Kingo Manema pour lui. Il déclare qu'il ressort de cette nomination des mandataires qu'il s'agit du partage du gâteau entre les membres de l'AMP, Alliance pour la majorité présidentielle. On remarque, dit-il, le maintien de certains anciens à leur poste et l'entrée de beaucoup de sénateurs et députés de la dite famille. C'est la continuité, dit-il encore, de la mégestion, l'impunité consacrée. Michael Elenga de Mbandaka à l'Équateur veut savoir si cette nomination a été conçu sur base de regroupements politiques ou sur des résultats du concours. Kimbala de Kolwezi au Katanga veut savoir pourquoi le gouvernement traîne les pieds pour nommer l'ADG de la Société Nationale de Chemin de Fer, qui selon lui est par terre avec échec dans la gestion de 30 mois. Nous recevons pour les discussions dans cette émission Gaston Moussemela, il est député de l'AMP et un des nouveaux mandataires. Il est désigné à la... Il est administrateur à la Caisse de stabilisation cotonnière. Lucien Boussa, député national aussi du MLC, vice-président de la commission Ecofin à l'Assemblée nationale. Et Lems Kamonia, chargé de projet au comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques. C'est un organe conseil du gouvernement.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
Nomination de nouveaux mandataires dans les entreprises publiques. Quels sont les critères qui ont conduit à cette nomination? Janine Mabunda, la ministre du portefeuille, affirme que cette mise en place s'est effectuée avec une grande transparence. On l'écoute.
Alors, il faut savoir que ce processus a pris du temps parce qu'on a quand même eu 6690 candidatures au départ, au mois de juillet. À l'arrivée, ceux qui ont été éligibles pour passer le concours étaient 1492 candidats congolais, intéressés donc par les postes de décision dans ces entreprises publiques. Sur les 1492 candidats congolais retenus, il y avait 130 femmes, soit moins de 10%, et donc ça se reflète quand même dans les résultats. Enfin, il faut savoir aussi que ce processus de concours a été appuyé par le COPIREP, qui lui-même a été assisté de 3 cabinets d'audit, des cabinets internationaux comme Pricewaterhouse, Deloitte & Touch, mais aussi un cabinet d'audit local. Enfin, il faut préciser, je crois que la chance a été donnée à tous. Enfin, il faut savoir aussi que dans cette ordonnance, nous reconfirmons des comités de gestion qui étaient provisoires, parce que le provisoire ne peut pas durer éternellement dans l'attente éventuelle donc des contrats de gestion dans des secteurs précis. Je crois que l'intérêt de cet exercice, c'est que il s'est fait dans une certaine forme de transparence, dans une forme de démocratie participative qui permet à tous d'avoir accès à un emploi, l'emploi étant un des 5 chantiers, en tout cas autour du projet défendu par le président Kabila et le Premier ministre. Nous y avons tenu à cette égalité des chances pour tous, et donc je crois que c'est ça qu'il faut retenir, avec ce souci d'équilibre provincial qui ne se décrète pas, parce que toutes les provinces ont participé, mais c'est fonction aussi du nombre de candidats à l'entrée. C'est un exercice qui n'est certes pas parfait, mais je crois que la bonne gouvernance, c'est aussi des actes concrets.
C'était là un extrait de l'intervention de la ministre Janine Mabunda sur la radio-télévision nationale congolaise. Réaction du côté des employés de quelques entreprises publiques, certains syndicalistes notamment, saluent la nomination des nouveaux mandataires, mais d'autres qualifient cette mise en place d'une sorte de récompense aux alliés politiques. On écoute deux des syndicalistes joints par Radio Kapi.
Nous saluons la nomination de mandataires dans l'optique de réforme des entreprises telles que décidées par le gouvernement et nous pensons que le choix de ces mandataires va répondre aux attentes de la population qui veut voir ces entreprises être viables, des entreprises qui rendent service à la population. Mais je sais qu'il y a le donne politique aussi qui intervient dans la désignation de mandataires. Bon, quelqu'un peut avoir mal géré hier, bon, aujourd'hui, il réagit sur son comportement managérial.
Bon, à la chose comme ça, je constate que dans la motivation telle que c'est consigné dans le décret, c'est respecter le regard de profit de ceux qui ont été nommés. C'est qu'il y a quelques-uns qui ont présenté les tests, moi je comprends, et d'autres qui sont là, dans le fait qu'ils sont dans le PMDNP et l'allié. Ça va tout, hein, parce que ce sont des partis qui ont gagné les élections à travers leur alliance. Mais c'est le populaire qui tenait à ce que ceux qui nous avaient promis, ils devaient d'abord y aller conformément à ceux-là qui ont souffert pour réfléchir, pour discuter, pour rentrer dans les normes statistiques et démontrer qu'ils ont décidé pour gérer l'entreprise. Mais en regard de tous ces noms qui sont sortis, je crois que plus de 60% sont des gens qui n'ont pas présenté les têtes. Mais nous avons cru qu'il y aura la technicité, il y aura l'objectivité qui va prévaloir, qui sera pas seulement les intérêts liés aux obédiences du parti politique. Donc ça me laisse un peu léger quant à la gestion de ces entités qui demandent des bons gestionnaires à la tête, des gens petits dans la gestion qui ont la pression de milieu.
Jean-Lucien Boussa, qu'est-ce que vous dites, vous, au niveau de l'Assemblée nationale? Évidemment, il y a des parlementaires qui ont été nommés, vous n'avez pas été, hein, on a consulté les différentes listes. Votre réaction d'abord à chaud?
Non, mes réactions en tant que MLC, en tant que député de l'opposition, en tant que député de l'Assemblée nationale.
Oui.
Donc, je crois que par rapport à cela, je dois d'abord noter que le gouvernement n'était pas obligé d'organiser un test pour désigner les mandataires publics. Donc, c'est un choix que le gouvernement a opéré.
Oui.
Maintenant, est-ce que le gouvernement est resté conforme à sa logique en matière de tests?
Oui.
N'est-ce pas? Je crois que c'est des questions qu'il faudrait se poser. De prime abord, j'aurais voulu que l'opinion sache que l'opposition ne participe pas à la gestion des entreprises publiques et personne n'y figure. Deuxièmement, par rapport aux nominations, on note, par exemple, que tous ceux qui ont réussi au test n'ont pas été nommés au poste de mandataire public. Exemple précis, KDLGDEP ou le seul ADS. N'est-ce pas, parmi les personnes qui ont passé les tests et qui ont satisfait, il n'y a que l'ADS qui a été retenu. Tous les autres, c'est des personnes qui n'ont pas passé des tests. Donc nous sommes dans la logique des tests. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe encore? On observe que beaucoup de présidents des partis politiques se retrouvent présidents des conseils d'administration. Je vous pose la question de la morale dans le domaine politique.
Ouais, vous pensez à qui?
Je ne vais pas citer de nom. Je crois que vous êtes journaliste, vous en savez un peu mieux que moi. Il y a des présidents des partis politiques aujourd'hui, présidents des conseils d'administration. Je me demande si on peut faire un parti politique juste pour devenir président du conseil d'administration. Mais c'est peut-être leur choix. Je note aussi par ailleurs que la plupart de mes collègues députés et d'autres sénateurs, évidemment, ont été nommés mandataires publics. Dans certains cas, c'est incompatible avec leur mandat de député, en ce qui concerne le président du conseil d'administration ou les membres du comité de gestion, mais je crois que ça sera réglé par la Constitution, ça ne pose aucun problème. D'autres ont été nommés administrateurs. Donc il y a un personnel politique qui est sorti de l'Assemblée nationale pour occuper des fonctions de mandataire public. Donc, je montre par ailleurs qu'il se pose un problème en termes d'équilibre régional. La plupart des nominations sont concentrées dans quelques provinces du pays. Quatre principalement. La province du Katanga, les provinces du Kivu, et puis la province du Bandundu principalement. Et donc, on observe aussi ces déséquilibres. L'espace sur le plan national, on ne peut pas me dire que dans d'autres provinces, il n'y a pas d'expertise à même de pouvoir gérer les entreprises publiques. Je note aussi, par ailleurs, que certaines entreprises publiques, telles que le NASRA, etc., n'ont pas été totalement pourvues. On nous dit qu'il y a des contrats de gestion, mais on se pose la question. Au moment où on est en train de discuter, au niveau du Sénat, parce que l'Assemblée nationale a déjà adopté, n'est-ce pas, des projets de loi sur la réforme des entreprises publiques,
oui.
N'est-ce pas, en ce moment-là, le gouvernement prend le devant pour pouvoir signer des contrats de gestion au lieu simplement d'attendre d'appliquer la réforme dans sa rationalité, telles que les lois qui sont discutées au Sénat sont en train de les concevoir, des lois qui n'ont pas été impulsées par le même gouvernement. Je dis que il se pose quand même un problème en termes de logique. Et donc voilà, si je dois dire quelque chose par rapport à ces nominations, je pourrais simplement ici conclure en disant qu'il y a quand même une politisation de la gestion des entreprises publiques où on trouve des présidents des conseils d'administration, présidents des partis politiques, où beaucoup de nos collègues, n'est-ce pas, ont été désignés à ces niveaux.
Donc beaucoup de collègues parlementaires, vous
voulez dire. Ont été désignés à ces niveaux. J'ai dit, constitutionnellement, pour certains cas, d'administrateurs non actifs, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est dans la morale politique, on va se retrouver dans des cas où, par exemple, lors du contrôle parlementaire, les députés est d'abord
députés, contrôleurs.
Ça, on le verra bien sûr. Maintenant, ils se retrouvent dans la gestion, mais on va nous dire qu'ils ne sont pas dans la gestion active, mais dans tous les cas, c'est la gestion de l'entreprise plus dans sa globalité.
On verra cela dans la deuxième partie, puisque nous avons parmi les invités un des bénéficiaires ou des lauréats, comme le diraient certains. De toute façon, on a Gaston Moussemena, député national comme vous. Gaston Moussemena, vous êtes un des mandataires, vous êtes nommé administrateur à la Caisse de stabilisation cotonnière. Vous avez suivi un peu les observations de Jean-Lucien Boussard. Pour lui, c'est que cette mise en place est quelque peu politisée. Votre réaction?
Bien, je crois qu'il faut remercier Jean-Lucien Boussard qui est resté égal à lui-même. D'entrée de jeu, il vous a situé, il a voulu vous préciser qu'il était du MLC, donc de l'opposition. Il ne pouvait qu'avoir une appréciation conforme à la logique de l'opposition. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a considéré que l'action du gouvernement, c'était presque une politisation des entreprises publiques. Oui, il sait, ça a été expliqué, Mme Abunda vous a expliqué longuement. Le gouvernement est resté quand même dans la logique de la transparence. Le gouvernement n'a pas voulu, il avait la latitude de désigner les gens de le début de son entrée en fonction, mais le gouvernement a précisé qu'il fallait quand même que tous les Congolais aient la même chance. C'est ainsi que, grâce au COPIREP, il y a un concours qui a été lancé et tous les Congolais ont participé à ces concours. Mais le gouvernement a pris la latitude de vous informer qu'il y avait des postes qui relevaient de concours et des postes qui ne relevaient pas du tout des concours. Je crois que tout le monde l'a suivi et le gouvernement est resté constant. Donc,
vous voulez parler de quel poste? Donc, président du conseil d'administration?
Non. Les postes d'ADG, notre ami de coopérateur peut-être reviendra sur ça, les postes d'ADG, les postes d'ADF et les postes d'ADT sont les postes techniques. Tandis que les postes d'ADGA, les postes de PCA, donc des administrateurs externes, ça n'avait rien à voir avec la technicité ou la grande technicité. Voilà comment les choses se sont passées et on vit aussi de toutes les façons alors transparentes.
Donc pour vous, ce n'est pas pour des raisons politiques de votre alliance avec l'AMP que vous êtes, par exemple, à la caisse de...
Non. Gaston, c'est un universitaire, monsieur. Ce n'est pas pour des raisons politiques d'abord. On vous a expliqué, mon collègue Boussa vous l'a dit, que c'est la continuité du gouvernement. Ça relève du ministère du portefeuille. Le portefeuille, c'est un ministère du gouvernement. Il y a une majorité qui est au pouvoir. Il y a une majorité qui, dans 5 ans, c'est le mandat du gouvernement, qui devrait rendre compte à la population de la gestion du pays. Les portefeuilles font partie, de ceux pour lesquels le gouvernement devra rendre compte.
Donc, voilà, vous estimez que la majorité peut se taper...
Je ne dis pas que c'est tapé. Il y a eu des postes clairs et c'est la majorité aujourd'hui qui est au pouvoir qui devra rendre compte et qui doit choisir des éléments capables de l'aider à la gestion ou à l'encadrement de la gestion des entreprises. Il est vrai que le gouvernement, il vous l'a dit, a initié quelques projets de réforme des entreprises. C'est pour rendre un peu plus efficient ces entreprises parce que Madame la ministre a l'habitude de vous démontrer comment les entreprises à ces jours, Jean-Lucien Boussaé, mon président à la commission Ecofinis, comment à ces jours les entreprises ne participent plus grandement au budget de l'État. C'est une situation déplorable, alors que l'État devrait plutôt compter sur ces entreprises. Voilà pourquoi on a initié des réformes et le gouvernement actuel devra rendre compte de cette action-là qu'il vient d'amorcer. Et nous espérons que ces réformes qui qui concernent même les engagements dans certaines entreprises, pourront aider le gouvernement à améliorer les caisses de l'État, à améliorer les conditions de vie de la population à travers les budgets qui devra ainsi connaître une certaine augmentation. Donc, de manière responsable, le gouvernement a agi en tant que responsable.
Et pas des façons politiques, non.
Non, non, c'est pas des façons politiques, de façon, c'était transparent. Mmh. C'est un point de vue d'un ami de l'opposition, c'est clair, nous comprenons qu'il peut trouver des cas.
Vous n'êtes pas de cet avis, en fait.
Pas du tout, pas du tout, parce que tout a été clair et nous devons encadrer, je suis député, il y a une option au niveau de la majorité, que certains députés encadrent certaines entreprises.
Voilà. Vous, Lens Komania, vous êtes du COPIREP, comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques, en fait, vous avez participé, si on peut le dire ainsi, à l'élaboration de cette mise en place. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je prends par exemple Assa de Goma, c'est un auditeur qui dit, qui lui estime que cette nomination, cette mise en place ne prouve pas la réalité du test. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, vous?
Oui, je pense qu'il y a des précisions qu'il faudra donner. Vous savez, dans la loi qui régit actuellement les entreprises publiques, il est prévu trois organes de gestion des entreprises publiques. Le premier organe, c'est le conseil d'administration. C'est l'organe qui est habilité à définir la politique générale de l'entreprise et qui doit se rassurer de sa mise en œuvre par le deuxième organe qui est le comité de gestion. Le comité de gestion assure la gestion courante de l'entreprise et s'assure de l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par le conseil d'administration qui lui est soucieux de voir cette entreprise atteindre la politique générale qui lui a été dictée.
Oui.
Et enfin, le troisième organe, c'est ce qu'on appelle les collèges des commissaires aux comptes qui doivent se rassurer de la tenue régulière de la comptabilité et éviter qu'il y ait des dérapages financiers au niveau de l'entreprise.
Est-ce que vous avez tenu compte de ça?
Ce qui a été fait, c'est quoi? Une entreprise, dans sa gestion quotidienne, c'est les comités de gestion. Les comités de gestion, dans la formule actuelle, il est composé de 4 personnes. C'est d'abord un directeur général.
Le DG, comme on l'appelle.
DG, maintenant on l'appelle ADG parce qu'il est à la fois membre du comité de gestion et il est aussi administrateur. Le directeur général est généralement assisté d'un directeur général adjoint et d'un directeur financier et d'un directeur technique.
Tout ça, c'est connu.
C'est ce qu'on appelle les postes opérationnels.
Oui,
donc, les postes opérationnels qui sont les plus importants, c'est les trois postes, les postes de directeur général, des directeurs techniques et des directeurs financiers.
Oui.
Ce sont ces trois postes qui ont été ouverts au test. Parce que ce sont ces personnes-là qui animent l'entreprise au jour le jour et qui sont responsables de la performance de l'entreprise quant à ce qui concerne le niveau de sa production, la qualité de service rendu à la population, ainsi que sa contribution au budget de l'État.
Oui, mais
ça repose sur les comités de gestion.
Oui, mais quand vous avez ce comité de gestion, ce comité de gestion qui a été soumis au test, et puis vous avez les membres, les présidents du conseil d'administration, des administrateurs qui, eux, n'ont pas été soumis au test. Comment ça va se passer, finalement? Est-ce que cette entreprise va...
Effectivement, il y a une différence, parce que la gestion quotidienne de l'entreprise est assurée par les comités de gestion, donc principalement par les personnes qui ont été recrutées selon les tests. Les administrateurs, ils se réunissent de manière sporadique, une fois tous les deux mois ou une fois tous les trois mois, pour se rassurer de la bonne marche de l'entreprise et du respect des objectifs qui ont été assignés au comité de gestion. Quelqu'un qui est président du conseil d'administration ou notre ami qui est administrateur, lui ne gère pas l'entreprise au quotidien. Lui, il vient deux mois après, trois mois après, il regarde, il se réunit pendant un ou deux jours pour voir la marge générale de l'entreprise et s'assurer que cette entreprise fonctionne normalement.
Est-ce que c'est
à ce niveau-là?
On le verra peut-être.
Ce sont les organes qui actuellement régissent les entreprises publiques. C'est ainsi que le gouvernement s'est dit, comme je suis soucieux de la performance de nos entreprises, il faudrait que les personnes qui doivent s'assurer de sa gestion au quotidien soient des technocrates, soient des personnes qui connaissent les métiers, et c'est pourquoi ces postes ont été ouverts aux tests. Et le gouvernement n'était pas obligé de recourir aux tests, parce que M. Lucien Boutal l'a dit, qu'est-ce qui arrive? Un gouvernement qui est là, les entreprises publiques, c'est un prolongement du gouvernement. C'est un instrument d'atteinte de la politique générale d'un gouvernement. Ceux-là qui ont gagné les pouvoirs, ils sont libres de se dire la gestion donc la composition du gouvernement, tout comme les mises en place dans les entreprises, les tout doivent concourir à nous permettre d'atteindre notre projet de société. Et ils peuvent distribuer les postes pour se dire, voilà, nous devons gérer et arriver à ce que nous voulons. Mais ce que le gouvernement voulait dans cette distribution de postes, on a préféré privilégier l'élite du pays, de sorte que ceux-là qui gèrent l'entreprise au quotidien soient des personnes qui sont capables, qui ont la technocratie entre leurs mains et qui savent redresser la plupart de nos entreprises considérées aujourd'hui comme des canards boiteux.
On va y arriver, peut-être une dernière question, on va passer à la deuxième partie. On voit, il y a beaucoup de parlementaires hein, qui ont été nommés. Hein. On a déjà parlé de celui qui est avec nous sur ce plateau, dans ce studio, c'est Gaston Moussemena. Mais il y a aussi, on a vu, on voit Bazam Kalaïsungu à l'INSS, Kissim Bangoy à l'OGDEF, Eugène Ferroufouli à la SNL et Isoyongo à la CMDC, sans oublier Gaëtan Kakoudji, pour ne citer que ceux-là, hein, Gaëtan Kakoudji à la RVA. Ça va se passer comment avec des parlementaires, à la fois membres de ces comités ou conseils d'administration, ça va se passer comment, se cumule?
Moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faudra bien scruter les dispositions constitutionnelles. Je pense qu'un administrateur tout court, ça c'est un poste passif. Je ne trouve pas d'inconvénient qu'il puisse cumuler avec son mandat de député, mais un président du conseil d'administration, à mon sens, ça poserait un peu de problème. Mais là, je ne saurais pas vous donner une réponse toute faite. Il faudrait vraiment scruter les dispositions constitutionnelles. Et sûrement, il risque de tomber dans les cas d'incompatibilité et être obligé de choisir entre son mandat de député ou son mandat en tant que président du conseil d'administration.
On va y revenir parce qu'on a des députés dans cette émission. La nomination des nouveaux mandataires des entreprises publiques. Quel avenir pour les entreprises publiques en RDC? C'est l'objet de la deuxième partie de cette émission et vous pouvez encore réagir.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-899-222.
Nomination de nouveaux mandataires des entreprises publiques. Quel avenir pour les entreprises publiques en RDC? Nous avons posé la question à François Elika et il donne son point de vue.
Dans les soucis des autorités, on recherchait plus le mérite plutôt que des considérations politiques. Mais on a noté quand même qu'une réelle politisation est apparue à travers la nomination des présidents de conseils d'administration. C'est notamment des personnalités qui ont un penchant politique bien déterminé. On est en face d'une démarche tendant à satisfaire un certain nombre de personnes qui n'avaient peut-être pas trouvé des places au niveau du gouvernement ou qui ont été des fenêtres du gouvernement. Cette tendance où on a, au niveau de l'exécution des présidents, de présidents délégués ou des administrateurs délégués, recrutés sur base d'une technocratie, d'une technicité, avec en amont au niveau des présidences des conseils d'administration des hommes politiques, nous pensons déjà que ça peut être des débuts de contradiction parce que formellement, on risque de ne pas être en face d'une même vision de la gestion. Le président du conseil d'administration est plus astreint à faire valoir les considérations politiques qui ont été à la base de sa nomination, alors que les autres estiment être le produit d'une technicité et c'est pour ce fait qu'ils ont été recrutés.
On va revenir à ce que vient d'avancer François Elika, notre analyste politique, sur le risque de contradiction entre la vision du président ou du conseil d'administration et le comité de gestion. D'abord avec vous, les députés nationaux que nous avons dans cette émission, Jean-Lucien Boussa, est-ce que ça pose problème sur ce cumule les parlementaires comme Gaston Moussemena qui sont nommés? Et est-ce que ça dérange la Constitution? Ça ne viole pas la Constitution?
Je voudrais d'abord préciser que par rapport au test, qui est une logique que le gouvernement a choisi, qui n'est pas la première expérience en République démocratique du Congo, qui n'a pas produit les effets escomptés en termes d'amélioration de la gestion des entreprises publiques. Rappelez-vous, 2010, il y a eu des tests et nous connaissons le résultat atteint aujourd'hui. Je veux simplement rappeler que par rapport à ça, le GDEP, la DG qui est nommée n'est pas celui qui a réussi au test. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc par rapport maintenant au fait que certains parlementaires ont été nommés, non, en tant qu'administrateur, il n'y a pas d'incompatibilité sur le plan constitutionnel. Par contre, en tant que président des conseils d'administration, il y a forcément incompatibilité. Mais est-ce que ça les débats? Les débats, c'est le fait que les élus du peuple, n'est-ce pas, pour certains, les présidents des partis politiques, depuis quoi, s'engagent à aller vers les entreprises publiques. Et pourtant, c'est le défenseur du peuple par excellence. Et j'aurais voulu que le président des partis politiques, franchement, puisse s'élever au-dessus de la situation des entreprises publiques pour avoir des visions politiques sur le plan national. Mais Est-ce que c'est justifié par des choix nationaux ou c'est justifié par des choix individuels? En ce qui concerne le président des partis politiques, ça pose un problème. Maintenant, y a-t-il adéquation entre la coexistence de ces deux corps? Certains sortis du test, d'autres qui viennent par le fait du jeu politique. Mais je dirais d'emblée, pas du tout. Si la vision politique est claire, si des personnes nommées sont d'une compétence éprouvée, le problème, c'est l'éthique politique qui pose problème. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui que, et je ne voudrais pas répéter ce que j'ai déjà dit, non, je crois que le problème c'est celui-là, c'est que cette mixture permette d'atteindre les objectifs souhaités en termes de création de richesses, en termes de production de dividendes, en termes de création de services publics de qualité. Or, l'expérience démontre que la politisation des entreprises publiques n'a pas toujours permis d'atteindre l'objectif escompté, et c'est là les débats.
Oui, donc on retient qu'au niveau des textes, au niveau de la loi, ça ne pose pas problème.
Les administrateurs simples, il n'y a pas de compatibilité constitutionnelle.
Oui.
Par contre, pour les secondes du conseil d'administration, il y a des problèmes. Pour les mandataires actifs, ils sont frappés par l'incompatibilité. Oui. Ils ont le choix à opérer entre être ADG, ADGA, et rester député ou sénateur.
Oui. Mais alors, Gaston Montsemena, pour vous, par exemple, qui êtes nommé à la Caisse de stabilisation cantonnière, ça va se passer comment? Parce que vous êtes député national, c'est vous qui devrez, je suppose, contrôler d'une certaine manière la gestion de ces entreprises publiques. Comment peut-on venir contrôler chez vous, vous êtes député, et qu'une commission, par exemple, de l'Assemblée nationale vienne effectuer ou opérer un contrôle chez vous? Est-ce qu'il y a vraiment des garanties pour que le travail se fasse comme il faut, avec toute la rigueur, et arriver à des performances dans les entreprises publiques?
Bien, je crois que tout le monde sait que les députés sont au nombre de 500 à l'Assemblée nationale, et que chaque commission a un certain nombre de députés. S'il y a à contrôler au sein d'une entreprise où se retrouve un membre de l'Assemblée, je crois que vous comprenez que je ne saurais pas bloquer le contrôle, les autres députés feront le travail sans problème. J'aimerais tout de même revenir sur quelque chose que mon collègue Boussa a dit sur le JEDEP. Il est vrai que les tests étaient de mise, mais il était aussi dit qu'on soumettrait au chef de l'État tout à nos par poste et laisser au chef de l'État le pouvoir discrétionnaire de choisir la personne la mieux indiquée pour veiller à la gestion de l'entreprise.
Donc on peut toujours dire que pour le JEDEP, c'est le choix du président.
Tous les choix, parce que c'est sa signature qui est engagée. Donc le chef de l'État connaît tout le monde individuellement, c'est-à-dire que quand il s'engage à signer l'ordonnance, c'est lui. Donc au regard de ça, il peut y avoir un problème à un certain niveau, et peut-être que le chef, de manière discrétionnaire, peut recourir à quelqu'un dont la compétence est avérée. Peut-être qu'il n'a pas fait les tests, je n'ai pas tous les éléments avec moi, c'est mon collègue Boussa qui en parle, mais au moins, il faut que vous sachiez ça, que l'opinion sache ça, que c'est le chef de l'État qui, en dernier ressort, de manière discrétionnaire, devait désigner les gens. Et ici, je vous informe aussi que l'opinion doit savoir que parmi ceux qui ont fait les tests, il n'y a pas que tous de l'AMP ou de la majorité. Alors, Jeffrem, par exemple, c'est notre ami, il est d'IRCD, qui n'est pas un parti,
vous voulez parler
de Emile Kassongo, qui a fait ses preuves. Et je crois que tout le monde sait que les RCD, de façon officielle,
mais il est déjà
ne fait pas. Justement, c'est-à-dire qu'il a satisfait au test. C'est juste un cas pour vous dire qu'il peut y avoir quelques exceptions. C'est tout ce que je voulais dire à mon collègue.
Vous pouvez dire que l'AMP, les candidats de l'AMP sont plus réussis que d'autres.
Non, je ne dis pas ça. Il n'est pas de l'AMP, mais il a fait ses preuves et il est là. Donc, les cas de Mille, ce sont des exceptions où peut-être les gens qui ont réussi d'après lui, qui ne se retrouvent pas. Donc, l'incompatibilité
ne semble pas être d'accord.
Il aura des arguments de toute manière. Donc, à ce qui concerne les responsabilités des députés au sein des entreprises, c'est déjà au niveau du gouvernement l'option des contrôles internes. Vous devez savoir quand même que depuis un certain temps, nos entreprises étaient considérées ou gérées comme des biens sans maître. Alors, le gouvernement, avec le souci de récupérer ces entreprises pour créer beaucoup plus de recettes, pour faire en sorte que ces entreprises contribuent à l'amélioration des conditions de vie de ces pays, de la population de ces pays, a voulu quand même innover. Il a fait en sorte que y est parmi ces demandataires.
Oui, on va voir.
C'est juste une option. Je crois que le gouvernement, on va juger le gouvernement à la fin du mandat. Peut-être que cette option ne va pas donner, peut-être, je dis bien,
ouais.
Mais au moins c'est une option courageuse de ce gouvernement. Nous allons les juger le mois venu.
Ok. Et justement, Lems Kamanyar, qu'est-ce qui va changer avec les nouveaux mandataires dans la gestion des entreprises publiques? Parce que le copyright, quand même, où vous travaillez, où vous êtes membre du copyright, mais qu'est-ce qui va changer? Parce que vous étiez, vous, en fait, appelé justement à aider le gouvernement à opérer cette réforme des entreprises publiques. Qu'est-ce qui va changer?
D'abord, il faut que je puisse signaler ici que dans notre mandat, les recrutements, ça a été une activité qui n'est pas, en principe, prévue dans les mandats du copyright. Nous, on est là pour réformer. Ce qui est vrai, c'est que la plupart d'entreprises se trouvent dans des situations de contre-performance. Elles ne contribuent pas au budget de l'État, les services vendus sont de mauvaise qualité, il y a eu des retards dans les programmes d'investissement. C'est pourquoi toutes les entreprises sont engagées dans la voie des réformes. Mais dans cette réforme, qu'est-ce qui peut changer? Nous disons, dès l'instant qu'on a recruté des personnes de qualité qui animent la gestion courante de l'entreprise, ces personnes peuvent aider, par leur façon de réfléchir, par leur façon de travailler, peuvent aider à accélérer les réformes qui doivent être engagées dans ces entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place des gens qui vont se retrouver gérer les entreprises qui sont dans des conditions d'équilibre. La plupart des entreprises ont une situation financière désastreuse. Le niveau de vue de production, il est vraiment vétuste et même obsolète. Il y a des réformes courageuses qui doivent être mises en œuvre.
Mais et donc, c'est là, ça va se faire quand?
Mais déjà, oui, le programme de réforme est en cours. Il y a déjà les projets de loi. Je crois que les honorables députés ont déjà adopté les nouveaux cadres légaux.
Ça reste au Sénat.
Maintenant, on est au niveau du Sénat. Avec ces nouveaux cadres légaux, ça va déjà changer, ça va moderniser la façon de gérer les entreprises publiques. Et je pense que la plupart des inquiétudes soulevées par M. Lucien Boussa seront résolues. Ou on pensait que ceux qui sont des personnes désignées politiquement, ils peuvent tout se permettre. Je crois qu'avec les nouveaux cadres légaux, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour essayer d'adapter la gestion des entreprises publiques aux meilleures pratiques internationales.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce cadre légal qu'on attend dans les
prochains problèmes? Vous savez, qu'est-ce qui touche nos entreprises publiques aujourd'hui? Nous avons les poids de tutelle, nous avons les interférences, nous avons les gens qui gèrent parfois sans responsabilisation, sans souci de rendre compte. Nous avons la spoliation, on est en train de brader les patrons d'entreprises publiques. Et je crois que dans les nouveaux cadres juridiques, on a mis beaucoup d'instruments pour verrouiller et protéger les patrimoines publics que nous retrouvons dans ces entreprises.
Vous
verrez même par exemple que aujourd'hui, dès que ces nouveaux cadres juridiques vont passer, on ne peut pas arriver à des contrats léonais tels que ça s'est passé à la GECAMINE, parce que la loi définit de manière claire de quelle manière on peut conclure par exemple un contrat de gestion, de quelle manière on peut mettre en place un contrat de partenariat, même s'il faut céder à l'entreprise publique, quelle est la procédure à suivre, elle est rigoureuse et il n'y a plus ces villes juridiques qui permettaient à n'importe qui de faire ce qu'il voulait.
Mmh.
Et on pense que, à ce moment-là, avec un nouveau cadre juridique, avec des personnes qui ont quand même une certaine expertise, avec le programme qui sera mis en place par les copyrights approuvés par le gouvernement et les autres partenaires, je pense qu'il y a lieu d'escompter quelque chose.
Mmh.
Donc cette mise en place à elle seule, elle ne résout pas tous les problèmes,
oui,
mais il faudrait vraiment qu'on puisse s'engager dans la voie des réformes courageuses pour escompter avoir aussi bien les bénéfices financiers que sociaux au niveau de la gestion de nos entreprises publiques.
Oui. Jean-Lucien Boussa, justement, vous êtes de l'Assemblée nationale, vous avez déjà eu à adopter le texte qui est maintenant à l'examen au niveau du Sénat, qui concerne la réforme, cette réforme des entreprises publiques. Lems Kamanyar a déjà parlé des interférences qui pourront être évitées, on l'espère. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de ce cadre légal qui puisse garantir une bonne gestion des entreprises publiques et leur permettre de décoller finalement?
Disons que les lois que nous avons votées au niveau de l'Assemblée nationale, la panoplie des lois, elles sont quatre. La loi sur la transformation des entreprises publiques. Il y a des entreprises publiques qui s'appellent entreprises publiques, mais en réalité, c'est des établissements publics. Il y a des entreprises publiques qui s'appellent entreprises publiques, mais en réalité, c'est les prolongements des administrations. Et donc, déjà de ce point de vue-là, il y a une catégorisation d'entreprises publiques, services publics, établissements publics qui permettent de rendre lisible, n'est-ce pas, les activités de l'État dans un certain domaine. Deuxièmement, c'est l'idée pour l'État de se consacrer à un certain nombre de tâches qu'elle est privée ne peut pas. Et laisser au privé le soin de s'investir dans les sociétés, je veux dire, purement économiques et commerciales. Ça aussi, c'est une idée importante. Mais aussi, l'idée, effectivement, c'est d'éviter le poids des tutelles. Malheureusement, dans ces lois, la tutelle existe, elle n'a pas disparu. La tutelle n'a pas disparu. Mais est-ce que c'est ça les problèmes des entreprises publiques congolaises? Parce que même les autres entreprises d'autres pays, selon les évolutions, ont connu des modes de gestion que nous avons connus dans les temps, mais qui ont prospéré. Il y a un problème de volonté politique, de vision politique, d'éthique politique. Ou lorsqu'on est ministre, on doit savoir que l'entreprise publique, c'est l'entreprise publique et ce n'est pas la propriété d'un ministre ou d'un ministère. Je crois que c'est un peu cela. Tout ce qu'on fait comme réforme, si ces réformes sont appliquées dans un contexte de gestion publique, de prédation économique, de pillage des ressources nationales, les réformes ne valent rien du tout. Par contre, si ces réformes rentrent dans un concept, dans une philosophie politique, dans une vision politique qui veut que les entreprises publiques puissent être le moteur de l'activité économique, à travers les services publics qu'ils créent, à travers l'activité qu'elles créent, je voulais dire, à travers d'autres mécanismes d'attrait des investissements privés, nationaux comme étrangers, à partir de ce moment, on peut considérer qu'on peut sortir du bourbier.
On va revenir vers vous, Moussa Ménin, le temps de prendre d'abord quelques réactions des auditeurs avec vous. Kevin Côté, bonsoir Kevin.
Bonsoir Jean-Claude. Pour Guy Kindala de Massimanimba au Bas-Congo, aucun critère n'a conduit à ce choix, sinon la récompense réservée aux alliés d'hier s'emporte aujourd'hui. Adrien Lobako et Lubumbashi Katanga veut savoir pourquoi nommer toujours les mêmes personnes. On s'attendait à la nomination des étrangers à la tête de certaines entreprises. Zazu Dieudonné de Bounia dans la province orientale dit ceci, est-il obligatoire que toutes les provinces soient représentées ou que l'on tienne compte des compétences personnelles? Enfin, Clément KMB de Mbushimayo au Kassai Oriental demande pourquoi que des politiciens dans la nomination de nouveaux mandataires des entreprises publiques.
Merci beaucoup Kelly Nkoute, Gaston Moussemena, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces auditeurs, le cas de Clément KMB de Mbushimayo, et il se demande pourquoi seulement des politiciens dans la nomination des entreprises publiques, vous qui êtes déjà député national, est-ce que ça ne suffit pas, Gaston Moussemena?
Eh bien, ce n'est pas un problème personnel des Gaston Moussemena.
Non, vous, à travers vous, c'est tous les collègues, comme vos collègues parlementaires élus.
Je comprends bien. Ce sont des exigences démocratiques. Au niveau de la majorité, nous sommes organisés et nous avons nos compétences. Il y en a ceux qui nous encadrent, qui estiment que tel peut jouer tel rôle. Tel regorge de certaines compétences. Je peux être aujourd'hui député, mais s'il me reconnaît d'autres compétences, parce que je ne suis pas qu'un député aujourd'hui, monsieur, j'ai terminé l'université en 1988, j'ai évolué dans l'administration jusqu'à ce jour. Mon cursus, mon profil me permet de soutenir l'action du gouvernement à ce stade-là, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'un député qui jouit d'une certaine compétence puisse mettre cette expertise, cette compétence au profit de la nation? Ce n'est pas ça un problème.
Parce que je suppose qu'à l'AMP, il y a d'autres personnes qui ne sont pas parlementaires, mais qui peuvent être aussi compétentes, non?
Il y a des critères. Ce n'est pas moi qui les fixe. J'aimerais vraiment qu'on se comprenne, parce que j'ai été désigné par la hiérarchie. Ce n'est pas à mon niveau de vous dire pourquoi c'est moi. Je crois que la hiérarchie du parti, la hiérarchie de l'organisation AMP a estimé que Gaston Moussemena, parce que vous parlez précisément de moi, a une certaine compétence, a une certaine expérience professionnelle et qu'il est à même d'encadrer les entreprises qui, pour la plupart, sont devenues des canards boiteux et avec la bonne compréhension du programme du gouvernement dont j'ai les députés parce que nous participons à tous les débats, je crois qu'il est normal que ceux-là qui élaborent les lois, il est aussi normal que ceux-là qui maîtrisent mieux la politique du gouvernement puissent participer du moins de manière interne au premier contrôle. Parce qu'il faudra aussi que les gens sachent que
Avec la démocratie, il y aura des contrôles à tout moment. Les contrôles parlementaires seront maintenant démises. Et au niveau de, je rappelle ici à mon collègue Boussa, qu'au niveau même de notre règlement intérieur, c'est l'opposition qui devra piloter chaque fois les commissions de contrôle. C'est tout simplement une façon de bien encadrer la gestion des entreprises du pays pour que les choses ne se passent plus comme auparavant.
Ok. Et à vous, Jean-Lucien Boussa, il y a Ndanzou, Dieudonné de Bounia dans la province orientale, il demande est-ce qu'il faut absolument que toutes les provinces soient représentées ou on doit plutôt tenir compte de la compétence.
Mais j'espère que les compétences dans ce pays se trouvent partout. On les retrouve au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. Je crois que c'est une question d'intérêt national. Lorsque nous sommes engagés dans des questions d'intérêt national, il vaut mieux que la représentativité prévue dans la Constitution soit démise. Donc je ne pense pas qu'il y a des provinces crétines, il y a des provinces où on ne trouve pas des compétences, alors que d'autres en régorgent plein. Quand je prends simplement la logique de mise en place, telle qu'elle est décrite par l'expert des copines, où on dit il y a des fonctions opérationnelles qui ont été soumises au test, alors que d'autres fonctions, c'est des fonctions qui sont déterminées par le choix du chef de l'État ou du gouvernement. Le collègue Moussemène a dit tout à l'heure que malgré que les tests aient lieu, il y a eu la discrétion du président de la République, parce qu'on nous présentait chaque fois trois mots. Par rapport à ça, le chef de l'État, en tant que représentant de la nation, en tant que responsable du fonctionnement harmonieux de la Constitution de la République, a l'obligation de veiller à la représentativité nationale. Et personne ne peut me dire le contraire.
Donc, vous voulez dire que la géopolitique, comme on dit,
il faut tenir compte de la représentativité nationale parce que ceci est constitutionnel. Et il n'y a pas que des compétences dans deux provinces. Dans ce pays, il y a des compétences partout.
On a Adrien Ilobako et c'est un autre auditeur, il nous écrit de Lubumbashi au Katanga et veut savoir pourquoi nommer toujours les mêmes personnes. On s'attendait à la nomination des étrangers à la tête de certaines entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, les étrangers, je crois qu'ils vont venir parce que vous voyez les grandes entreprises comme l'ONATRA, comme la SNCC, comme la RVA. Il y a des postes, on a dit, ce sont des postes qui restent à pourvoir.
L'AMIBA.
L'AMIBA, effectivement, il y a un processus qui est en cours. On est en train de chercher des experts internationaux qui peuvent nous aider ensemble avec des Congolais à redresser cette entreprise. Donc, pour ces entreprises-là, on a recouru à une expertise internationale, donc des étrangers, qui pourront, ensemble avec les Congolais, comme on l'a fait à la GECAMINE, travailler pour redresser l'entreprise. Et dès que les lois pourront passer, et comme l'a dit tout à l'heure les députés du MSC, M. Lucien Boussa, il y a des entreprises pour lesquelles qui évoluent dans la sphère marchande, l'État peut se dire, je n'ai pas assez de moyens, je ne vois pas d'intérêt de garder une entreprise alors que je ne sais pas la redresser.
Comme quelle entreprise, par exemple?
Non, il y a plusieurs entreprises donc, qui sont dans les secteurs marchands.
Par exemple,
je peux prendre les cas de ligne aérienne congolaise, je peux prendre les cas de SNCC, n'importe quelle entreprise, là j'ai quand même toutes ces entreprises qui ont pour finalité de produire des biens, des services et de pouvoir les vendre. L'État peut se dire, je ne trouve pas vraiment un intérêt social particulier à rester titulaire ou bien propriétaire d'une telle entreprise, je peux la confier à une gestion privée. Donc, sous certaines conditions définies par la loi, l'État peut céder cette entreprise, soit de manière partielle, soit de manière totale, soit c'est bien rien que la gestion à d'autres expatriés. Donc, que les gens se tranquillisent. Oui. Si on a nommé les mêmes personnes, il faut dire qu'il y a eu des tests, sont qui se présentaient aux tests.
Mais et surtout, il y a aussi
que le test n'a pas confirmé tous les postes. Je crois que vous verrez que sur chaque entreprise publique, il y a à peu près 8 personnes qui sont nommées. Mais sur les 8, seuls 3 étaient concernés par les tests. Et les 3, ce sont les 3 qui sont sur les 4 membres du comité de gestion qui sont des postes opérationnels, ceux-là qui gèrent l'entreprise au jour le jour. Les autres, peut-être ils ont été nommés, mais ils ne vont pas travailler dans l'entreprise, ils n'auront pas de place dans l'entreprise, ils vont se réunir à côté une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois pour voir comment l'entreprise évolue. Peut-être c'est là qu'on a retrouvé les noms des députés, les noms qui sont généralement connus, mais ceux-là qui sont aux commandes de l'entreprise, qui les pilotent au jour le jour, ceux-là ont été désignés suivant les tests.
Oui.
Les blancs, ils vont venir.
Oui, quand? Ils vont venir quand? Les blancs...
Je crois que pour l'ONATRA et la SNCC, les filles ont déjà été recrutées. Je crois que tout le monde, le gouvernement avait approuvé les rapports de sélection. Il y a la société Vecturis qui a été sélectionnée, c'était de Belges. pour la SNCC, la société Progosa, c'est une société espagnole pour l'ONACRA. Maintenant, on est en phase de finaliser la conclusion du contrat avec ces entreprises.
Et la
RVA, effectivement, le processus a été encore relancé. Et je pense que pour l'ONATRA et la SNCC, si les choses se passent normalement, d'ici fin janvier, début février, ils pourront commencer. Et la RVA, je crois, dans 2 ou 3 mois, ça sera chose faite.
Voilà, c'est par ici que nous allons nous arrêter. Peut-être un mot de la fin en quelques secondes seulement. On garantit une bonne gestion, Jean-Lucien, vous l'espérez.
J'espère que ces nominations vont permettre, avec d'autres réformes, d'atteindre les résultats. Ce que nous voulons, c'est quoi? Ce que nous voulons, c'est des services publics de qualité.
Voilà, merci beaucoup. Et nous, c'est maintenant, en un mot.
Là, je remercie la population pour sa vigilance. Et je dirais qu'elle reste vraiment vigilante pour juger le gouvernement le mois venir. C'est concernant les entreprises.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. La réalisation, Nadine Foula, Héritier Sidakala, Jean-Claude Ntella, voilà, était à la mise en onde et qu'elle écoutait à la préparation de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis.